très rapidement, on voulait parler de l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait prendre le texte hébreu et chaque fois le traduire? Bien sûr que non. On allait prendre la traduction qui existait à l'époque, c'est-à-dire la traduction de la Septante. Et donc, les chrétiens, très rapidement, ont utilisé la Septante. Certains apôtres la citent, c'est pas citent la Septante. La Septante était largement connue dans l'Église. Les pères de l'Église se sont ont parfois prononcé leur position par rapport à ces livres supplémentaires. Certains les considéraient utiles, d'autres les considéraient comme très importants, d'autres encore les rejetaient. Ils disaient non, ces écrits supplémentaires ne sont pas du tout du même ordre que les textes qui sont dans le canon hébreu. Et en fait, l'Église ne s'est jamais vraiment prononcée sur ces livres supplémentaires jusqu'au XVIe siècle, à l'époque de la Réforme. Et à la Réforme, les réformateurs ont dit « Nous voulons retourner aux sources. Nous voulons pas baser notre foi sur les traditions de l'Église, mais retourner aux sources, c'est-à-dire retourner à la Bible. » Mais en disant « retourner à la Bible », ils sont non seulement retournés à la Bible en latin, mais dans la Bible en hébreu et en grec. En grec pour le Nouveau Testament et en hébreu pour l'Ancien Testament. Et les apôtres ont dit, ce qui était vraiment à la base de la foi des Juifs et du Seigneur et des apôtres, c'était le canon hébreu. Ils ont dit, les livres supplémentaires, on ne peut pas les considérer comme normatifs. Surtout que certains de ces livres contenaient des hérésies. Alors, les réformateurs ont pris position contre ces livres supplémentaires. Les catholiques, eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit, oui, mais ces livres supplémentaires, ils défendent justement certains de nos doctrines. Par exemple, la prière aux morts, le salut par les œuvres, sont enseignés dans certains de ces livres apocryphes. Et au Concile de Trente, en 1546, ils ont dit, ces livres supplémentaires sont normatifs. C'est la première fois que l'Église catholique s'est prononcée là-dessus. Et ils les ont appelés les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire qui ont été inclus dans le canon dans une deuxième étape. Mais ils sont tout aussi normatifs, disent-ils, que les autres livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors que les protestants appellent ces livres supplémentaires les livres apocryphes, et ils ont donc une valeur tout à fait différente. Elle n'est pas normative. Les réformateurs ont dit certains de ces livres peuvent être utiles pour la lecture, peuvent être utiles pour l'édification, mais ils ne sont pas autoritaires. Et pendant un certain temps, les églises protestantes ont continué à éditer ces livres supplémentaires dans les Bibles. Mais en général, en les plaçant à la fin de l'Ancien Testament ou à la fin de la Bible, avec une petite notice pour avertir le lecteur, en disant « ces livres sont d'un ordre différent ». Voilà un petit peu, très rapidement brossé, l'histoire de la Septante. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'entrer un petit peu plus dans certains de ces livres pour voir ce qu'ils enseignent, et je crois qu'il est assez évident de voir la différence de qualité entre les livres inspirés et normatifs qu'on trouve dans les Bibles protestantes et ces livres supplémentaires. Mais d'abord un mot concernant Job, Daniel et Esther, qui ont été profondément modifiés dans cette traduction des Septantes. Le livre de Job, vous savez, il est long. Il est très long. Et puis l'impression, on s'y perd avec ces discours des trois amis de Job qui se répètent et se répètent. Alors, ce que le traducteur de la Septante a fait, c'est qu'il a fait un condensé. Il a pratiquement supprimé un tiers du livre pour faire un digest, un petit peu, n'est-ce pas? Pour lire un petit peu plus facilement. Bon, c'était un point de vue. Mais ça montre peut-être pas un très grand respect pour le texte inspiré, ou alors, ça montre simplement que la personne, même si elle avait un respect pour le texte, disait, je fais quelque chose de plus léger pour l'évangélisation. Ce qu'on fait d'ailleurs souvent aussi. N'est-ce pas? Vous éditez, on édite parfois une partie des évangiles, quelques paroles. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne les croit pas, mais on veut simplement mettre l'accent sur des paroles qui nous paraissent essentielles pour les non-chrétiens. Et peut-être c'est ce qui s'est passé pour la personne qui a traduit le livre de Job. Pour le livre d'Esther et de Daniel, c'est l'inverse qui s'est produit. On a ajouté certains textes. Tout d'abord pour Esther, puisqu'on en a parlé. On a dit que le livre d'Esther posait quelques problèmes, parce que le livre ne contient pas le nom de Dieu. Ah ben alors, on pourrait modifier la chose, n'est-ce pas, rectifier le tir, en quelque sorte. Et le livre contient 6 adjonctions. Entre autres, 2 de ces adjonctions concernent des prières. Alors, il n'y avait pas de prière dans la version hébraïque. Maintenant, on a 2 longues prières, une de Mardoché et une de Esther. Et chacune de ces prières mentionne le nom de Dieu et le nom du Seigneur. Le nom de Dieu, dans la version grecque, apparaît 22 fois et le nom du Seigneur apparaît 23 fois. Alors que dans le texte hébreu, il n'apparaît jamais. Vous voyez qu'on a rectifié le tir pour que ce livre soit plus acceptable. Et puis comme il n'y avait pas de référence à la religion, le livre paraissait trop profane, eh bien on a inséré 2 longues prières, celle d'Esther et celle de Mardoché. Et puis un autre problème qui se posait, c'était que Esther, elle avait épousé un roi païen. Alors comment Esther peut être un exemple, puisqu'elle a épouser un païen. Alors, une des adjonctions dans le livre d'Esther montre toute l'attitude d'Esther, qui ne voulait pas, mais alors absolument pas, épouser ce roi païen, mais finalement, elle ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est une sorte de petit commentaire qui est donné pour expliquer l'attitude et l'orthodoxie, en quelque sorte, d'Esther. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous lire quand même un petit extrait pour que vous ayez un petit peu un goût de cette adjonction. Donc Esther doit se présenter devant le roi. Elle a prié, elle a jeûné, et maintenant elle doit se présenter au roi. Au bout de 3 jours, voici ce qui arriva. Lorsqu'elle eut cessé de prier, elle enleva ses habits de pénitente pour se draper dans sa gloire. Puis dans son éclat solennel, après avoir invoqué Dieu, qui voit tout et qui sauve, elle prit avec elle les 2 demoiselles d'honneur. Sur l'une, elle s'appuyait comme alanguille, tandis que l'autre suivait en portant sa traîne. Elle était toute rougissante, au comble de sa beauté. Elle avait la mine souriante comme une amoureuse, mais le cœur serré par la peur. Après avoir franchi toutes les portes, elle se tint devant le roi. Lui était assis sur son trône royal, revêtu de tous les atours de ses solennelles apparitions, tout couvert d'or et de pierres précieuses. Il inspirait une grande terreur. Il leva alors son visage que la gloire enflammait, et au comble de la fureur, il jeta un regard. La reine s'effondra. Dans un état de faiblesse, elle changea de couleur et inclina sa tête sur celle de la demoiselle d'honneur qui la précédait. Or Dieu changea l'esprit du roi pour l'amener à la douceur. Inquiet, celui-ci bondit de son trône et la prit dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se remît. Il la réconfortait par des paroles apaisantes. « Qu'y a-t-il, Esther? Je suis ton frère. » Et confiance, lui dit-il, tu ne mourras pas. Notre ordonnance concerne le commun. Approche. Il leva alors le sceptre d'or, le lui posa sous le cou, puis il l'embrassa et dit « Parle-moi. » Et lui dit « Je t'ai vu, Seigneur, tel un ange de Dieu, et mon cœur était bouleversé de peur par ta gloire. Car tu es admirable, Seigneur, et ton visage est plein de grâce. » Mais tandis qu'elle parlait, elle s'effondrait de faiblesse, le roi était bouleversé, et toute sa suite la réconfortait. Donc ça, c'est une des adjonctions dans le livre d'Esther. Et puis, alors, Alors ici, une partie de la prière d'Esther, je ne vais pas tout lire parce que c'est un petit peu trop long. Esther qui prie, elle dit « Tu as connaissance de tout. Tu sais que j'ai détesté la gloire des sans-lois, que le lit des païens et de tout étranger me dégoûte. Toi, tu sais la contrainte que je subis. Il me dégoûte l'insigne orgueilleux que j'ai sur la tête le jour où je suis en représentation. Il me dégoûte comme une serviette périodique. Et je ne le porte pas dans les jours où je suis au repos. Ta servante n'a pas mangé la table de Haman. Je n'ai pas honoré le banquet du roi, ni bu le vin des libations. Ta servante n'a pas trouvé le bonheur depuis que j'ai changé de condition jusqu'à maintenant, sauf auprès de toi, Seigneur, Dieu d'Abraham. Dieu qui a puissance sur tous, écoute la voix des désespérés, arrache-nous à la main des pervers et arrache-moi à la peur. » Et on voit ici que l'auteur essaye de défendre Esther en disant, après tout, n'est-ce pas, Esther était vraiment pure, elle était obligée d'aller devant le roi, mais elle n'avait aucun plaisir. Et puis il y a d'autres adjonctions, et certaines de ces adjonctions posent un problème parce qu'elles contiennent des contradictions. Par exemple, tout au début du livre, on apprend que Mardoché dévoilé le complot qui était organisé contre le roi, ce qui est raconté plus tard dans le livre d'Esther. Et là, on place ce complot la deuxième année du roi, alors que le texte hébraïque place ce complot la septième année. Donc il y a un problème ici. Et puis aussi, il est dit que lorsque Mardoché a dévoilé ce complot, le roi l'a récompensé. Or, tout le texte hébreu tourne autour du fait que justement Mardoché n'a pas été récompensé la première fois, mais que plus tard, lorsque c'était le temps de Dieu, en quelque sorte, Dieu a rappelé au roi ce que Mardoché avait fait, et à ce moment-là, il reçoit la récompense. Et donc, le texte d'Esther, un texte grec, contient plusieurs contradictions et même certaines erreurs. Concernant le livre de Daniel, il y a quatre adjonctions. La première adjonction est une longue prière, c'est la prière d'Azaria. Au moment où les trois juifs, trois amis de Daniel, sont jetés dans la fournaise ardente, juste à ce moment-là, le texte grec interrompt en quelque sorte le récit hébreu et insère une longue prière de 66 versets de Azaria. Et dans cette longue prière, il y a d'abord une première partie de repentance, ensuite un petit récit historique, et pour terminer, une louange qui est à nouveau assez longue. Alors, le récit historique, c'est juste quelques versets, contient à nouveau des contradictions. Il dit ceci, « Or les serviteurs du roi, qui les avaient jetés dans la fournaise, ne cessaient de l'attiser avec du bitume, de la poix, de l'étoupe et des fagots. La flamme s'élevait à 49 coudées, donc ça fait à peu près 25 mètres, au-dessus de la fournaise. Elle se déploya et brûla ceux des Chaldéens qu'elle trouva autour de la fournaise. Mais l'ange du Seigneur descendit de la fournaise avec Azaria et ses compagnons, et il rejeta la flamme du feu hors de la fournaise. Il descendit, elle rendit le milieu de la fournaise comme un vent de rosée rafraîchissant. Le feu ne toucha pas du tout, et il ne leur causa ni tort ni dommage. » Et après, il y a cette louange qui suit. Alors c'est quand même intéressant ici, parce qu'il est dit que les hommes qui ont jeté les trois amis, qu'est-ce qu'ils continuent à faire après? Ils attisent encore le feu. Alors que le texte hébreu nous dit que ces hommes, ils sont morts. Le texte grec nous dit que la flamme a brûlé les gens qui étaient autour, mais pas ceux qui les ont jetés à l'intérieur. Et donc à nouveau, il y a une contradiction par rapport au texte hébreu. Mais autrement, cette longue prière, elle est acceptable, n'est-ce pas? La prière de repentance reprend un petit peu la prière de repentance de Daniel au chapitre 9. Et puis l'action de grâce elle dit comment le soleil, la lune louent le Seigneur. Mais il faut dire que cette prière de repentance, d'action de grâce, est extrêmement plate. Il y a une répétition très lassante. Enfin, c'est encore une chose qu'on pourrait, à la rigueur, accepter. Et puis, la deuxième adjonction, enfin les trois suivantes, elle se situe à la fin du livre et constitue les chapitres 13 et 14 de Daniel. D'abord, il y a l'histoire de Daniel et de Suzanne, ensuite l'histoire de Daniel et des prêtres de Bel, et pour finir, de Daniel et le dragon. Alors, les deux premiers que j'ai mentionnés, donc Daniel et Suzanne et Daniel et les prêtres de Bel, se chargent de souligner la sagesse de Daniel. Un jour, il y avait une belle jeune fille tout à fait pure et droite qui était mariée, qui s'appelait Suzanne. Et il y avait deux hommes, des juges iniques et méchants, qui étaient tombés amoureux de Suzanne, qui bien sûr était déjà mariée. Alors, un jour, il la convoite tellement qu'il s'approche d'elle alors qu'elle est seule dans le jardin. Et il dit ceci, nous la forcerons à nous céder, n'est-ce pas ? Si elle refuse, alors nous dirons, nous crierons, et diront qu'elle avait une relation avec un jeune homme, qu'eux ont crié et que le jeune homme est parti. Donc ils vont accuser Suzanne. Ils vont lui dire, soit on va t'accuser et tu vas être condamné à mort, soit tu acceptes nos propositions. Alors quand les deux hommes entrent dans le jardin et disent leurs menaces, Suzanne est tout à fait effrayée. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire ? Si j'accepte, je désobéis à Dieu. Si je refuse, je vais mourir. Mais comme elle était droite, elle refuse. Alors les deux hommes crient, les servantes arrivent, et puis les juges donnent ce faux témoignage. Suzanne est jugée et condamnée à mort. Et à ce moment, comme Zoro qui arrive, c'est Daniel qui arrive, et puis dit, vous avez jugé un petit peu vite, en fait je vais vous montrer comment ces deux hommes sont mauvais. Alors, il les sépare et il les interroge tour à tour. Et au premier, il lui dit, sous quel arbre as-tu vu Suzanne et ce jeune homme ? Alors, l'un des hommes répond, sous un lentisque, je pense que c'est comme arbre, enfin, c'est dit un lentisque. Et puis l'autre, qui est interrogé après, dit, sous un chêne vert. Alors bien sûr que c'était clair que ces deux hommes avaient menti et avaient inventé toute l'histoire et ils sont condamnés. Oui, c'est un peu naïf comme récit, mais qui a pour but de souligner la sagesse de Daniel. Et puis un autre récit qui parle de Daniel et les prêtres de Bel. Alors là, le roi Nebuchadnezzar dit, mais tu sais, nous avons une idole formidable, c'est Bel, et toi tu dis que les idoles ne font rien, mais la nôtre, elle mange de la nourriture. Et Daniel dit, mais pas du tout, il ne mange pas la nourriture. Alors ils font un petit test, le soir, tout le monde voit que les prêtres apportent des offrandes sur l'autel et on se retire. Et en général, pendant la nuit, cette idole mange la nourriture. Mais avant de sortir, Daniel, qui était seul avec le roi, reçoit la permission de mettre un petit peu de cendre par terre. Et puis on sort, on scelle les portes. Et le lendemain matin, quand on entre, le roi dit, voyez, l'idole Bel vient de manger la nourriture, c'est vraiment un dieu. Et Daniel les arrête, il dit, attention, n'approchez pas, voyez les traces ici par terre. Et en fait, les prêtres avaient une ouverture secrète qui entrait à l'intérieur de l'autel, et chaque nuit, eux, leurs femmes et leurs enfants venaient manger la nourriture. Et à nouveau, on montre la sagesse de Daniel. Et puis, il y a une dernière adjonction que je vais vous lire, parce qu'elle est assez significative. Il y avait aussi un grand dragon, et les Babyloniens le vénéraient. Le roi dit à Daniel, « Tu ne peux pas me dire qu'il n'est pas un dieu vivant. Adore-le donc. » Daniel dit, « C'est le Seigneur, mon Dieu, que j'adorerai, car lui seul est vivant. Mais toi, ô roi, accorde-moi la permission et je tuerai le dragon sans épée ni bâton. » Le roi dit, « Je te l'accorde. » Daniel prit, écoutez bien, de la poix, de la graisse et des poils. Il fit tout bouillir ensemble, confectionna des boulettes et les mit dans la gueule du dragon. Le dragon mangea et creva. Et Daniel dit, voyez donc l'objet de votre vénération. Or, quand les Babyloniens l'eurent appris, ils furent violemment indignés. Ils s'attroupèrent contre le roi et dirent, le roi est devenu juif, il a battu Bel et tué le dragon et massacré les prêtres. Puis ils allèrent auprès du roi et dirent, livre-nous Daniel, sinon nous te tuerons toi et ta maison. Le roi vit qu'il le pressait vivement, cédant à la nécessité, il leur livra Daniel. Eux jetèrent Daniel dans la fosse aux lions. Il y fut 6 jours. Il y avait dans la fosse 7 lions. On leur donnait chaque jour 2 corps et 2 brebis. Mais alors, on ne leur donna rien, afin qu'ils mangent Daniel. Le prophète Habacuc, ça continue, le prophète Habacuc se trouvait en Judée. Il avait fait cuire une bouillie et émietter des pains dans un vase. Et il partait dans la campagne pour porter cela au moissonneur, une sorte de pique-nique qu'il avait préparé. L'ange du Seigneur dit à Habacuc, porte le repas que tu tiens à Babylone. Donc Habacuc se trouve en Judée et l'ange dit, porte cela à Babylone. Hein, ça... Et porte-le donc porte le repas que tu tiens à Babylone à Daniel dans la fosse aux lions. Habacuc dit, Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone, mais je ne connais pas la fosse. Comme si c'était le seul problème, n'est-ce pas? L'ange du Seigneur le saisit par le sommet du crâne et le portant par les cheveux de sa tête, il le déposa à Babylone, au-dessus de la fosse, dans l'impétuosité de son souffle. Habacuc cria en disant, Daniel, Daniel, prends le repas que Dieu t'a envoyé. Daniel dit, tu t'es souvenu de moi, mon Dieu, et tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment. Daniel se leva et mangea. L'ange du Seigneur réinstalla aussitôt Habacuc chez lui. Le 7e jour, le roi vint pleurer Daniel. Il vint à la fosse et regarda, et voici que Daniel était assis. Criant d'une voix forte, il dit, tu es grand Seigneur Dieu de Daniel, et il n'y a pas d'autre que toi. Il le retira de là quant au responsable de sa perte. Il le fit jeter dans la fosse, et il fut aussitôt dévoré en sa présence. Donc ça, c'est une adjonction aussi dans le texte grec. Et une des choses qui est absolument étonnante, non seulement c'est ce miracle du Seigneur, tout est possible bien sûr au Seigneur, mais de transporter un homme par le crâne, dans une vision, ça va encore, n'est-ce pas? Il peut nous transporter dans une vision, mais là c'était physiquement qu'il l'a transporté. Pour faire quoi? Pour apporter un pique-nique à Daniel dans la fosse aux lions. Entre nous soit dit, le problème de Daniel, c'est pas qu'il devait subir un jeûne de 7 jours. Mais c'est qu'il y avait des lions qui, eux, voulaient manger. Alors, à la rigueur qu'on apporte de la nourriture aux lions, on pourrait comprendre. Mais à Daniel, alors, vraiment, le problème était tout à fait ailleurs. Et ce texte, on sent qu'il est d'un genre tout à fait différent des textes qui sont inspirés. Maintenant, bien sûr, je n'ai pas le temps de prendre en détail tous les livres supplémentaires. Qui se trouve là. Je dirais peut-être encore juste un mot sur le livre de Judith. Pour montrer à quel point le récit est faux, inventé et tout à fait indigne d'être classé même parmi les livres de valeur. Le récit décrit une situation où il y a une grande menace pour Israël. Un roi païen, que je ne vais pas nommer pour l'instant, que je nommerai dans un instant, un roi païen n'est pas honoré comme il le désire par les peuples alentours. C'est un empereur qui règne sur de très grands domaines. Et il n'apprécie pas la chose, alors il décide de se venger. Et il massacre des populations entières, que ce soit en Perse, que ce soit en Turquie, que ce soit en Égypte, partout il massacre des populations. Les gens sont terrorisés, certains lui ouvrent les portes et disent « on accepte les conditions » et même dans ces cas-là, le roi massacre tous ces gens. Donc même si vous agitez le drapeau blanc, rien à faire, le roi est dans une telle fureur qu'il détruit tout le monde. Et finalement, il arrive auprès des Juifs. Alors que faire? C'est la catastrophe, il est tout puissant, il y a une armée innombrable qui se chiffre à plus de 100 000, je crois 120 000 fantassins et puis une armée, une cavalerie de 12 000 hommes, vraiment une force énorme qui arrive là, et à un moment donné, elle s'arrête devant une des villes qui se trouve, je crois, en Galilée, et qui ouvre en quelque sorte le territoire à tout le pays d'Israël. Et là, le roi décide, plutôt que de porter un siège à la ville, de faire un blocus, en quelque sorte, pour que les gens souffrent de faim et de soif. À ce moment apparaît une femme, Judith, une juive, qui est veuve, mais qui est extrêmement pure. Et les anciens, qui étaient absolument désespérés, avaient cédé sous la pression du peuple. Ils avaient dit, d'accord, dans 5 jours, si rien ne s'est passé, alors on ouvrira les portes et on se rendra. Ils savaient très bien ce qui les attendait. Et je lui dis, vous n'avez pas confiance en l'Éternel, c'est pas comme ça qu'on doit agir. Mais puisque c'est comme ça, puisque vous vous êtes engagé que dans 5 jours vous allez ouvrir les portes, moi je vais vous sauver malgré vous. Elle lui raconte toutes sortes d'histoires, le roi voit sa beauté, croit dans ses paroles et accepte qu'elle demeure un certain nombre de jours dans son camp. Elle sort chaque soir, elle peut sortir du camp pour faire des prières. Simplement, le général en chef ne pouvait plus résister et voyait toujours cette beauté de Judith. Alors un jour, il la presse et lui dit, écoute, viens au festin que j'ai préparé. Alors Judith accepte, le roi est tout content, s'enivre et il est complètement sous. Alors il est sur sa couche, à ce moment Judith arrive, lui tranche la tête, prend la tête dans un panier et peut quitter la ville. Bien sûr, comme chaque soir elle avait l'autorisation de sortir de la ville pour faire ses prières, elle peut quitter la ville. Elle arrive vers les Juifs, leur montre la tête du général en chef. Ces derniers sont galvanisés, ils disent « Ah, ça y est, l'ennemi est vaincu ». Et puis dès que les ennemis découvrent le cadavre de leur général, alors ils sont pris de panique et s'enfuient. Et une ère de paix s'instaure à partir de ce moment-là et tout le monde honore Judith. Donc voilà à peu près le récit résumé maintenant. Il n'y a pas seulement de problème avec ce récit. Alors, qui est ce roi? Le roi, en fait, c'est Nebuchadnezzar. Mais, même si vous n'êtes pas des spécialistes en histoire et en géographie, je pense que vous arriverez quand même à discerner certaines erreurs graves. Le texte de Judith nous dit que Nebuchadnezzar règne à Ninive et qu'il est le roi des Assyriens. Alors on sait très bien que Nebuchadnezzar régnait à Babylone et qu'il était le roi des Babyloniens. Et ceci s'est répété à de nombreuses reprises à travers le livre. Il est dit que toute la terre s'est révoltée contre le roi Nebuchadnezzar. Alors qu'en fait, tous les textes historiques de la Bible nous disent est aussi païen, je veux dire, il y a des historiens profanes qui nous disent la même chose, ils nous disent que tous les peuples étaient écrasés par Nebuchadnezzar, qu'il avait conquis et qu'il dominait toute cette région. De plus, il est dit que la 18e année de Nebuchadnezzar, alors, la 18e année de Nebuchadnezzar correspond à l'an 587. Ça correspond à peu près à l'année où Jérusalem a été assiégée et détruite, 586. Or, on dit que la 18e année de Nebuchadnezzar, les Juifs étaient déjà rentrés de l'exil, qu'ils avaient reconstruit la ville et le temple. Alors, vraiment, ça ne va plus. Le temple, en fait, a été reconstruit 70 ans plus tard, et la ville 143 ans plus tard. L'attitude de l'armée est tout à fait incompréhensible. Comme vous avez, 170 000 fantassins et 12 000 cavaliers, et que vous attaquez une petite bourgade, vous n'allez pas faire un blocus économique. Vous allez simplement l'assiéger parce que c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi attendre ici des jours et des jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture? Et puis, Judith, elle trompe délibérément le roi, elle prie pour que Dieu sanctifie, bénisse ce mensonge, ça peut poser un problème, et tout à la fin du livre, il nous est dit que Judith, après avoir été honorée par tous, vécut encore 500 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens dans la Bible qui ont vécu très longtemps, mais c'était en général avant le déluge ou des gens qui ont vécu peu après le déluge. Autrement, ceux qui ont vécu plus longtemps, c'était des gens comme Moïse qui ont vécu 120 ans. Ici, Judith aurait vécu 500 ans, et on dit que c'était pendant toute sa vie une période de paix. Alors qu'on sait très bien que les Juifs, à partir de l'exil, n'ont jamais vraiment été seuls chez eux, souverains chez eux, peut-être pour une période très courte, entre la période des Maccabées et l'Empire romain. Mais au maximum, ça serait 100 ans, ce serait plutôt dans les 50 ans qu'ils avaient un tout petit peu d'indépendance. Or ici, on dit pendant 500 ans, en tout cas, ils étaient en paix. Et puis, il y a encore d'autres difficultés qui touchent ce texte. Donc, je crois que de manière générale, et là, je vais résumer et terminer, on peut dire que ces livres supplémentaires contiennent certaines bonnes choses. Si vous lisez le livre de la Sagesse, le livre du Siracide, qui sont des textes poétiques, qui se rapportent un petit peu, rapprochent des proverbes, ce sont des textes qui sont parfois intéressants. Il y a même des passages que vous pourriez prendre pour une prédication. Je veux dire, des textes sont intéressants. Mais chaque livre contient ses failles. Et donc, on ne peut pas placer ces textes sur le même plan que les livres normatifs et canoniques. D'ailleurs, ils ne prétendent pas être entièrement inspirés, au contraire. Et je vais terminer avec cette lecture de 2 Maccabées. Après, vous avez l'occasion de poser quelques questions. Souvent, quand on lit les livres de l'Ancien Testament, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Alors bon, c'est sérieux, n'est-ce pas? C'est pas n'importe quelle parole. Celui qui les a écrits croyait vraiment reporter les paroles de l'Éternel. Or, la fin de 2 Maccabées, donc c'est au chapitre 15 du livre de l'Évangile de Maccabée, l'auteur conclut de cette manière. C'est ainsi que se passèrent les événements concernant Nicanor. Et comme depuis ces temps, la ville demeura en possession des Hébreux, je finirai moi aussi mon ouvrage en cet endroit. Alors, vous m'écoutez. Si la composition est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Si elle a peu de valeur, elle ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. On peut louer, disons, l'humilité de l'auteur, mais il ne prétend pas, n'est-ce pas, à être inspiré par le Seigneur pour écrire ses textes. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, pas faire trop longtemps. Oui? Mais, vous savez, la vérité n'est pas le monopole, on pourrait dire, des chrétiens. Il y a des païens qui disent des choses qui sont justes. Le problème, c'est que parmi leurs paroles, il y a certaines choses qui sont bonnes. Et construire une partie de mon message là-dessus. Parce que l'illustration est bonne. Mais bon, je dirais quand même, c'est Billy Graham, c'est pas le Seigneur. Il y a une différence. Je voulais souligner les manquements de ces livres supplémentaires. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. Mais on ne peut pas les accepter comme normatifs. Et ça pose un problème parce que les catholiques, ils ont ces livres supplémentaires dans leur Bible, qui défendent certaines de leurs doctrines, en particulier Judith, n'est-ce pas? C'était Tobit, je crois que c'est Tobit qui dit que les homos nous sauvent. C'est pas c'est ça. On purifie les péchés. Ça, c'est difficile à accepter. Et on comprend pourquoi les catholiques, eux, veulent défendre ces livres. Par exemple, dans Tobit, il dit « Mieux vaut faire l'aumône que d'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. »